Europe 1. Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Lucile et Camille Desmoulins sont deux personnalités politiques très engagées au moment de la Révolution française. Ce couple très amoureux est prêt à tout pour l'avènement de la République. Mais les excès de la terreur les poussent à la modération. Un revirement qui les conduira à la guillotine. C'est leur histoire passionnante et pleine de rebondissements que je vais vous raconter aujourd'hui dans un récit en deux parties, Lucile et Camille Desmoulins, amour, révolution et guillotine. Épisode 1, deux idéalistes. Nous sommes à Paris le 31 mars 1794, dans un appartement situé aux deux places du Théâtre Français, l'actuelle place de l'Odéon à Paris. Camille Desmoulins, députée de la Convention nationale, est chez lui. Par l'embrasure de la porte de la chambre, il aperçoit Lucile, sa jeune épouse, allongée sur le lit. Des bruits de pas lourds le tirent de ses tendres pensées. Il sait déjà que c'est la police qui vient l'arrêter. Il ouvre la porte de son domicile et n'oppose aucune résistance. Il s'est fait des ennemis au Comité de salut public, un organe extraordinaire de la Première République censé la protéger. Ça devait arriver. Son vieil ami, le député Robespierre, ne le protège plus, et Saint-Just, l'un des membres du Comité de salut public, veut sa tête depuis longtemps par pure jalousie pour son talent. Lucile saute au cou de Camille et l'embrasse avant qu'il ne suive les policiers au tribunal révolutionnaire, une parodie de justice. Il ignore s'il la reverra. Camille et Lucile sont tous les deux des enfants de la bourgeoisie du XVIIIe siècle, passionnés et rêvant d'un monde nouveau inspiré par les récits de l'Antiquité qui abreuvent leur enfance. Camille naît en 1760 en Picardie. Il est le fils d'un juriste qui occupe la fonction du lieutenant général au bailliage de Guise. La famille est un peu aisée et possède de l'entregent. Monsieur Desmoulins fait jouer ses relations pour envoyer son fils à Paris au lycée Louis-le-Grand, fréquenté par la future élite bourgeoise du pays. Le jeune Maximilien de Robespierre y est lui-même inscrit. La scolarité de son fils le ruine, mais il parvient heureusement à lui obtenir une bourse. Camille est un élève appliqué et sensible. Il adore le grec et le latin. Les textes de l'Antiquité nourrissent la culture de son temps. C'est là qu'il découvre, à travers Athènes et Rome, ce que sont la République et la démocratie. Il se passionne pour les livres de l'orateur romain Cicéron, avocat de génie contemporain de Jules César. Il annote ses œuvres complètes. Il s'agace en découvrant qu'un homme politique du nom de Verrès abuse de son pouvoir et dans la marge, à côté de la plaidoirie de Cicéron, il écrit « Quel grand coquin que ce Verrès !» C'est dans ses lectures que Camille se forge sa conscience politique, avec cette idée que la République se met au service de l'intérêt général grâce à l'action, non pas du peuple, simple masse de suiveurs, mais de quelques hommes vertueux. Il affine sans doute sa vision de la République dans une loge maçonnique qu'il aurait intégrée très jeune. Lucile Duplessis est quant à elle issue de la haute bourgeoisie parisienne. Elle est née en 1770. Elle a 10 ans de moins que Camille. Son père est premier commis du contrôle général des finances. Elle reçoit une bonne éducation à domicile où se succèdent les maîtres spécialistes de disciplines variées allant du latin au piano. Lucile adore lire les romans à la mode, des romances pastorales inspirées de l'auteur romain Virgile. Dès l'adolescence, elle se met à écrire des contes pour enfants dans un style naïf. Elle réfléchit aussi à la place des femmes dans le monde et développe très jeune des idées modernes. Elle voit le mariage comme une tyrannie et la condition féminine comme un esclavage. Ce vocabulaire, elle l'emprunte aux journalistes et aux philosophes qui parlent de politique. Elle lit la presse qui commence à se développer en cette fin de XVIIIe siècle. Mais Lucile n'est jamais satisfaite de sa prose. Elle complexe un petit peu par rapport à sa mère qui écrirait mieux qu'elle et qui est réputée si belle à travers tout Paris. D'ailleurs, c'est de sa mère, Anne-Françoise Duplessis, que Camille tombe d'abord amoureux. Alors qu'il fait ses études de droit, Camille se promène souvent dans les jardins du Luxembourg où il croise sa belle voisine Anne-Françoise. Il lui voue un véritable amour platonique et n'essaie même pas de la séduire. Il se contente d'adorer cette mère de famille qui promène ses deux fillettes accrochées à ses jupes. Quelques années plus tard, en 1783, Lucille a 13 ans et Camille Desmoulins, âgée de 23 ans, commence à remarquer sa beauté. Cheveux châtains, yeux noisettes, visage aux douces rondeurs, c'est une fille élancée qui mesurera bientôt 1,65 m. C'est grand pour l'époque. Camille, désormais jeune avocat, se rapproche de la famille Duplessis. Alors que Lucille fête ses 17 ans, il demande des gages à son père. Il aimerait pouvoir se marier avec elle plus tard. Le premier commis du contrôle général des finances lui rit au nez. Camille n'est pas assez riche pour épouser sa fille. Son père ne lui paye même pas un lit pour meubler sa mansarde du quartier latin. S'il avait de l'argent, il en est sûr, il ferait une plus belle carrière. Desmoulins possède une plume remarquable, mais en tant qu'avocat, il est mauvais. On le surnomme le Cicéron bègue. Mais Camille rêve de gloire et se passionne pour la politique. En 1788, à 28 ans, il écrit ses premiers pamphlets. Les historiens ne sont pas tous d'accord, mais il semblerait que son premier texte anonyme publié soit « L'entretien de Maître Linguet et de Maître Bergas » qui traite de la réforme judiciaire du Parlement. Il s'oppose à la fois au despotisme du Parlement et à celui des ministres pour défendre la voie de la liberté. L'année suivante, il signe la France libre où il célèbre les députés du tiers-État réunis à l'occasion des États généraux et fustige tous les rois de France à l'exception de Louis XII et de Henri IV qui seuls trouvent grâce à ses yeux. Il est l'un des premiers auteurs à souhaiter ouvertement la République, un régime sans roi où la fonction législative est détenue par des représentants du peuple. Il suit donc avec attention les États généraux. Le 20 juin 1789, la Révolution française se met en marche lors du serment du Jeu de Paume. 576 députés du tiers-État, mais aussi de la noblesse et du clergé, se promettent de rester unis jusqu'à la création d'une nouvelle constitution. C'est un moment historique. Ils signent à court terme l'arrêt du modèle monarchique de droit divin où Dieu a mis le roi sur le trône et personne ne peut le contester. Les députés aspirent au déplacement de la souveraineté du roi vers la nation. Une vingtaine de jours plus tard, les États généraux deviennent l'Assemblée constituante, celle qui votera bientôt l'abolition des privilèges et la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ce véritable hold-up du pouvoir contre le roi échauffe tous les esprits, y compris celui de Camille Desmoulins. Le 12 juillet 1789, il se trouve au Palais Royal. Ce bâtiment en quadrilatère avec ses jardins centraux est la propriété ouverte au public du duc d'Orléans. Il n'y habite pas, mais il loue ses locaux qui abritent des boutiques et des cafés. Camille vient d'apprendre que le directeur général des finances, Jacques Necker, très apprécié des Parisiens, vient d'être congédié par Louis XVI à cause de leur désaccord sur les rapports à entretenir avec les députés. Camille monte sur une chaise et commence le discours qui fait de lui l'un des plus grands hommes de la Révolution. Il explique qu'il soupçonne le roi de vouloir tenter un coup de force contre le peuple en envoyant ses armées à Paris. Les badauds s'attroupent autour de lui, quelques dizaines d'abord, puis une centaine. Camille, grisé par la foule, continue. Il promet au peuple la Saint-Barthélemy des patriotes s'il ne s'arme pas pour se défendre et les armes sont à la Bastille. Que le peuple se réunisse sous la cocarde verte de l'espérance. À la fin de son discours, il attrape des feuilles de tilleul dans les arbres du Palais Royal pour se faire une cocarde qu'il met à son chapeau. Il conclut en provoquant des gardes qui patrouillent paisiblement dans le jardin. La foule est en transe. Enfin, Camille a sans doute enjolivé la réalité en relatant son discours du 12 juillet 1789. Mais ce qui est certain, c'est qu'il devient l'homme du 14 juillet, l'un des initiateurs de la prise de la Bastille. le petit avocat Desmoulins devient Camille pour les révolutionnaires. On ne l'appelle pas par son prénom pour souligner sa jeunesse, mais pour rappeler le général de la Rome antique, Camille, celui qui a sauvé Rome des envahisseurs gaulois. Deux jours après son discours, le 14 juillet, les révolutionnaires prennent la Bastille. Cette même année 1789, Camille lance son propre journal, Les Révolutions de France et de Brabant, composé de longs textes engagés très littéraires. Il s'impose dans le paysage politique comme un journaliste d'opinion à la plume incisive, toujours prêt à égratigner la royauté et le clergé. Il y dénonce le complot aristocratique, une vieille lune selon laquelle l'aristocratie voudrait massacrer le peuple pour conserver le pouvoir. Son journal lui permet de gagner sa vie et de se faire un nom. Monsieur Duplessis finit par reconsidérer sa demande en mariage et 3 ans après avoir exprimé son souhait, il épouse Lucile. Camille convole avec sa dulcinée en décembre 1790 à l'église Saint-Sulpice. Leur contrat de mariage, signé chez le notaire, montre que Camille est bien moins riche que sa femme. Il apporte 8000 livres au ménage et elle, 112 000. Mais Camille a 14 témoins prestigieux autour de lui, parmi lesquels se trouvent Pétion, le futur maire de Paris, le pilier du club des Cordeliers Danton et le député Robespierre. Le couple s'installe place du Théâtre Français près du Quartier Latin. Lucile partage les combats politiques de son époux. Elle lit la presse et assiste au débat de l'Assemblée, dans les gradins bien sûr. Les femmes ne montent pas à la tribune en ce temps-là. Dans les écrits qu'elle laisse, on voit qu'elle épouse les mêmes idéaux républicains et antimonarchistes que son mari. Camille est l'un des premiers à exalter 3 valeurs que nous connaissons bien, liberté, égalité, fraternité. Mais un nouvel événement inattendu va de nouveau bouleverser les rapports politiques entre le roi et les députés. Dans la nuit du 20 au 21 juin 1791, Louis XVI, Marie-Antoinette, leurs 2 enfants, Madame Élisabeth, la sœur du roi, et la gouvernante des enfants, tentent de fuir à la frontière pour mobiliser des troupes contre les factieux. C'est un échec. Le roi, déguisé en bourgeois, est reconnu par son aubergiste à Varennes et arrêté. La famille royale est ramenée au palais des Tuileries et placée sous surveillance. Le peuple et les députés considèrent maintenant le roi comme un traître. L'Assemblée constituante est en émoi. Elle ne sait pas si elle doit le destituer ou nommer un régent. Le 17 juillet, une altercation éclate sur le Champ de Mars entre les révolutionnaires radicaux et les modérés. Les premiers veulent la République et la tête du roi. Les seconds sont souvent ouverts à la voie de la conciliation, voire à une monarchie constitutionnelle. Lafayette, alors commandant de la garde nationale, ordonne des tirs de sommation pour calmer la foule. En vain. Il fait donc ouvrir le feu sur les manifestants. Une 100aine de révolutionnaires seraient morts avant que les autres ne se dispersent. Ce jour-là, Camille n'est pas à Paris, mais savoir que des révolutionnaires se battent entre eux et que le sang des patriotes a coulé le bouleverse. Si la violence du peuple est parfois légitime, il refuse de tolérer toutes les violences. Ses idées radicales sur la révolution commencent à vaciller. Pour découvrir la suite de ce récit en 2 parties consacrées à Camille et Lucile Desmoulins, rendez-vous sur votre plateforme de podcast préférée.